Kiosque Magazine.
Miguel, tes biscuits sont vraiment bons.
Charles, tu viens de manger le biscuit du Père Noël.
Oh non, est-ce que c'est vrai? Oh, mais j'ai pas touché à ton lait, Jennifer, t'en fais pas.
J'espère bien, quand même.
T'as préparé du lait pour le Père Noël?
Bien sûr, il faut savoir lui faire plaisir.
Et je pense que c'est du 3,25, hein?
Oui, la connaissant, là, oui. Bien de France. D'après moi, c'est bien gras, bien riche.
Bien costaud.
Ouais, faut bien enrober ce Père Noël.
Bienvenue à Kiosque Magazine. Bon, j'ai pris une trop grosse bouchée de biscuits. Alors, nous sommes le 19 décembre. Et aujourd'hui, alors, pour la dernière émission de 2014, on a une émission très chargée. Jennifer, de quoi est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui?
Eh bien, moi, je vais commencer avec des suggestions d'événements musicaux pour les fêtes de fin d'année. Et puis ensuite, on ira ensuite au théâtre avec la compagnie La Vierge Folle qui reprend sa célèbre pièce Les Contes à passer le temps. Puis, il sera temps de dresser un bilan de l'année cinéma au Québec. Et puis, on évoquera ensuite la sortie en salle de Panda 3D, Retour à la nature au Centre des sciences dès demain.
Intéressant. Et toi, Miguel?
Eh bien, de mon côté aussi, on parle théâtre à Jean Duceppe, chronique italienne. On a la nouvelle sortie aujourd'hui de Grace de Monaco avec Nicole Kidman, qui fait Grace Kelly. Et on visite la Grèce, ici même, à Montréal.
Ah oui?
Et 5 activités pour les vacances du temps des fêtes.
Random Recipe fait son traditionnel spectacle de réveillon, et cette fois-ci à saveur latino. Je vous en parle tout de suite après. Ensuite, quelques suggestions de Josiane Desloges dans le soleil, des cadeaux de musique en classique. Et pour finir, à Drummondville, le village du Père Noël bat son plein. On vous en parle en fin d'émission. C'est devenu une tradition des fêtes. Chaque année, depuis 2010, le groupe montréalais Random Recipe prépare un spectacle spécial qui prend les allures d'un réveillon de Noël particulièrement éclaté. Cette année, avec un thème comme « Feliz Navidad », il faut s'attendre à des pièces en espagnol, des rythmes latinos et peut-être une ou deux piñatas au cercle où s'arrêtera samedi la joyeuse troupe de Frabiza Fab di Frudica et Frabi Holder. C'est un texte de Yann Bussière du Soleil paru le 18 décembre, « Le réveillon latino de Random Recipe ». Tout ça a commencé quand Franny travaillait au club Lambi, qui est la salle de spectacle la plus centrale de Montréal. Avec notre vibe « Do it yourself », on voulait essayer de se dépasser avec un nouveau défi. Faire nos chansons, mais y ajouter des tunes de Noël avec notre son. Explique Fab, la rappeuse et beatboxeuse du Quatuor, en entrevue téléphonique avec le soleil. Même si l'atmosphère se veut festive, le groupe a fait ses devoirs, histoire de bien se coller à la thématique. Nous avons fait des recherches afin de dénicher des chants traditionnels en espagnol, quand même. À part peut-être ceux de Chili ou de l'Argentine, c'est beaucoup plus religieux que ce qu'on trouve en Amérique du Nord, poursuit Fab. Ah, mais quand même, hein, ici, même au Québec, les chansons, je les trouvais religieuses, mais ça a l'air qu'en espagnol, ben, en tout cas, dans la tradition espagnole, ben, c'est encore plus religieux que ça. Bon, c'est intéressant. La veillée risque d'être larga, puisque, une fois terminée la performance de Random Recipe, Frabi et Fab resteront sur la scène pour un DJ set qui mettra à l'honneur la salsa, le reggaeton et le merengue. Une année bien remplie. Les soirées de vendredi à Montréal et samedi à Québec couronneront une année bien remplie pour Random Recipe, qui a présenté de nombreux spectacles, dont au Festival d'été de Québec, au Festival de jazz de Montréal et à South by Southwest. Fab l'avoue, le groupe est présentement à peaufiner de nouvelles pièces qu'il souhaite présenter au public européen. Ce qui nous motive le plus, c'est de travailler sous pression. Avec l'Europe, on se sent obligé d'arriver avec du nouveau matériel. Comme on a commencé à travailler de nouvelles chansons, conclut-elle, en signalant que ces titres devraient se retrouver sur un album, un mini-album, apparaître en avril. Donc le spectacle s'appelle Feliz Navidad, ce sera au Cercle. Pour la réservation, appelez le 418-948-7684 et à Montréal ce soir, vendredi, au Parc des Compagnons de Saint-Laurent.
Santa noche, noche tan serena, tan bella cuando nació nuestro rey el santo Dios, que vino al mundo a darnos paz.
Qu'on vient d'entendre, Miguel?
Minuit chrétien en version espagnole?
Non, ça s'appelle Noche Sagrada. Oh. Ça vous donne une idée de l'ambiance qui va régner au cercle demain à Québec. Alors, Jennifer, toujours en musique?
Oui, justement, puisqu'on parle musique, eh bien, le André Péloquin, pardon, oui. dans Le Voir, nous propose des suggestions d'événements pour des fêtes qui vont être assurément musicales. Festival en soi, Noël dans le parc se poursuit jusqu'au 25 décembre. Et encore une fois, rassemble de nombreux artistes de talent qui offriront en cadeau des prestations gratuites. Parmi ceux-ci, soulignons Random Recipe, suivi de Betty Bonifaci, le 19 décembre, au Parc des Compagnons de Saint-Laurent. Elisa Pi, puis Daniel Boucher, le lendemain au même endroit, ainsi que les Tireux de Roche, le 26 décembre, à l'esplanade Sun Life du Parc Olympique. Vous aurez la programmation complète sur le site noeldansleparc.com. Et puis pour continuer dans les suggestions d'événements, le 20 décembre, pour les amateurs de musique du monde, l'ensemble vocal Musica Viva et le groupe Fogon proposent un concert de Noël typiquement argentin. C'est à l'église Saint-Jude dès 19h30. On vous rappelle que le Divan Orange poursuit sa campagne pour rénover sa salle de spectacle avec le happening Levé de son. Pour la cause, Bernard Adamu, Canaille et Deluxe et le Winston Band se succéderont sur la scène. Plus de détails sur le site divanorange.org. Le 23 décembre, pour celles et ceux qui ne seront pas sur la route pour rejoindre la parenté, un collectif d'artistes, dont les talentueuses Safia Nolin et Ariane Zita, tient un happening au Quai des Brumes, au programme Chansons de Noël, bien sûr, et autres surprises. On laisse même entendre que le Père Noël y sera. Le 27 décembre, un concours pour toute la famille, les Petites Tounes proposent une série de représentations de leur spectacle « C'est à quelle heure minuit ?» du 27 au 30 décembre à la Place des Arts. Plus de détails sur le site lespetitestounes.ca. Le 31 décembre, Montréal en fête tient une première du Parti du Nouvel An, un concert pour défoncer 2014 en compagnie d'artistes qui, justement, ont marqué les 12 derniers mois. Alex Nevsky, les Sœurs Boulet et Bernard Adamus seront au Vieux-Port de Montréal dès 22h30. Plus de détails sur montrealenfête.com. Et puis enfin, le 6 janvier, à ce point-ci, on devrait être omis de nos gueules de bois collectives. Et histoire de remettre la machine en marche, il y a la comédie musicale culte Jersey Boy qui sera jouée en anglais à la salle Wilfrid Pelletier du 6 au 11 janvier. Plus de détails sur le site placedesarts.com.
Miguel, est-ce que tu pourrais me parler des coups de cœur cette année, des coups de cœur musicaux, plus qu'on est en musique?
Bien sûr. Alors, comme c'est la fin de 2014, c'est le temps des bilans. Eh bien, de mon côté, c'est Christine and the Queen. Alors, l'artiste française qui a enregistré son album à Londres. Et il mélange le français et l'anglais. Alors, c'est un album qui s'écoute tellement bien du début jusqu'à la fin. Alors, c'est mon coup de cœur de 2014.
Toi, Jennifer, est-ce que tu as une musique à nous partager?
Oui, moi, j'avais bien aimé The Black Keys avec leur album Turn Blue. Et puis, une chanson en particulier, c'était Fever. Voilà, que j'avais beaucoup aimé. C'est mon coup de cœur musical de 2014.
Et moi, c'est Jimmy Hunt, son album La maladie d'amour, qui est sorti cette année, ou je crois en 2013, en tout cas un des deux, je pense que c'est dans 2013. Et vraiment, un mélange entre électro-pop, ses textes sont savoureux aussi. Ça vaut vraiment la peine d'être écouté. Et pour ceux qui ont... Oui?
C'est des suggestions de cadeaux, hein?
Ben oui, c'est ça. C'est pour ceux qui n'ont pas encore fait leurs emplettes, voici quelques suggestions de cadeaux de CD de musique classique. Ce sont les suggestions de Josiane Desloges dans Le Soleil, paru le 7 décembre. Doublé des violons du roi. Deux opus parus cet automne portent le sceau des violons du roi et nous entraînent dans les univers totalement différents. Sur la cigale et les violons, l'animatrice Catherine Perrin utilise ses talents de claveciniste et prête sa voix radiophonique à la narration des fables de La Fontaine sur la musique des Canadiens, Denis Goujon et de Rameau. Les textes familiers à redécouvrir acquièrent la texture avec la musique fine et élégante. Et sur le disque consacré au concerto Jeune homme de Mozart et à des concertos de Haydn, le pianiste parisien Alexandre Tarot et les violons du roi dirigés par Bernard Labadie réaffirment leur belle connexion et la fougueuse précision de leur interprétation. Et voici la deuxième suggestion de trois. Tout Beethoven est symphonique. Kent Nagano et l'Orchestre symphonique de Montréal avaient déjà enregistré 7 des 9 symphonies de Beethoven. Ils peuvent maintenant proposer l'intégrale dans un coffret de 6 CD fort bien construit, intitulé « Entre les Lumières et la Révolution ». Chacun des disques représente un tableau portant sur l'utopie, la poésie, les héros et les dieux. La Révolution française, les temps ou les misères et les amours humaines. De grands thèmes qui mènent des images sur la magistrale musique du compositeur. Et finalement, comme au Met, à défaut de pouvoir s'offrir un abonnement et un jet privé pour assister à tous les opéras du Metropolitan Opera de New York, on peut trouver de jolis objets à l'effigie des plus célèbres productions sur la boutique en ligne de la célèbre institution. Un disque vinyle de la Traviata chanté par Maria Callas en 1956, des boîtes à musique et à bijoux ornés à l'affiche de La Bohème, le Faust ou le Madama Butterfly, ou de superbes éditions vintage d'Opéra News ont attiré notre attention. Rappelons aussi que les productions du Met sont aussi diffusées dans les Cinéplex Odéon.
On a fait un tour de table autour de la musique. Maintenant, on passe en théâtre. Vos coups de cœur théâtraux cette année, Jennifer?
Alors moi, c'est une pièce qui m'a fait vraiment beaucoup rire et que je vais avouer, j'ai vu en France et je n'ai pas encore vu au Québec, mais okay. Je vais y aller, c'est Le Dîner de cons.
Ah oui, oui. Célèbre anthologie. Moi, cet été, j'ai vu Peau d'ours du Petit Théâtre du Nord et c'était franchement très drôle, avec Éric Bernier, entre autres. C'était vraiment très bien.
De mon côté, ça a été trois présentés au théâtre d'aujourd'hui. Pendant le FTA est repris, durant leur saison, en début de saison, et un texte de Mani Soleimanou. Toujours en théâtre, eh bien, c'est le temps des fêtes et parfois, bien, c'est des réunions familiales. Mm-hmm. Et on vous propose toute une chronique familiale, mais cette fois-ci à l'italienne.
Ah.
C'est au théâtre Jean Duceppe. C'est tiré du journal 24 heures, un texte de Marie-Hélène Chartrand du mercredi 17 décembre. Chronique italienne. Pour le temps des fêtes, le théâtre Jean Duceppe invite le public à un souper de famille à l'italienne, rassemblant trois générations et quelques divergences d'opinions. L'auteur de Mambo Italiano, Steve Galluccio, s'inspire encore une fois de son cercle familial pour dépeindre un portrait de l'immigration italienne de Montréal. Le couple formé par Terry, interprété par Émilie Bibeau, et Robert, interprété par Pierre-François Legendre, invite leur famille à souper pour leur annoncer une grande nouvelle. Ils quittent le quartier Saint-Léonard pour s'installer en banlieue. La table est alors mise pour un souper haut en couleur. On incarne la nouvelle génération qui veut essayer de s'affranchir et qui en même temps a un attachement très fort aux traditions, à la famille, fait remarquer l'interprète de Terry. Il y a quelque chose de beau dans le fait d'être tissé serré et en même temps, quelque chose de très contrôlant, d'étouffant, ajoute-t-elle. Autour de la table, on retrouve donc Terry et Robert, leurs parents ainsi que Dora, la grand-mère. Cette dernière a fui la guerre et s'est installée à Montréal où elle s'est mariée avec un presque inconnu. De la grand-mère aux petits-enfants, la pièce dresse un portrait de l'intégration des immigrants italiens. Ce sont des exemples de fils d'immigrants totalement adaptés. Ils ont conservé une culture italienne et en même temps parlent de hockey, fait remarquer Pierre-François Legendre. Celui-ci s'est d'ailleurs inspiré du réalisateur du film 1987, Riccardo Troggi, pour créer son personnage. Il a des réflexes d'Italien. Son père lui a montré à boire du bon café, il fait ses pâtes, mais c'est un Québécois pur laine. Il y a 7 ou 8 ans, il a fait un voyage en Italie pour voir sa famille et il s'est fait engueuler parce qu'il ne parlait pas italien, explique-t-il. Bien sûr, cette opposition entre le modernisme et le conformisme ne fait pas sans heurts et donne lieu à des quiproquos traités sur le ton de la comédie. Ils se confrontent et ce n'est pas grave, il y a quelque chose de normal à s'obstiner et à se crier un peu après, mais toujours avec beaucoup d'amour, fait remarquer Émilie Bibeau. Alors, les chroniques de Saint-Léonard, c'est présenté jusqu'au 7 février au Théâtre Jean Duceppe.
On vient d'entendre Ukuke de Rocco Rossa. Je ne sais pas si je prononce comme faux. Là. Iquique, merci.
Un son italien.
Oui, c'est ça.
On va rester en théâtre. Marie La Liberté nous parle dans Le Devoir du 15 décembre de la compagnie La Vierge Folle qui reprend pour une 4e année sa tradition du temps des fêtes avec les contes à passer le temps. Mm-hmm. L'invitation est généreuse et l'atmosphère dès l'entrée chaleureuse et conviviale. Décoration de Noël, buffet de desserts et boissons chaudes, public placé en quelques rangées qui se font face devant un espace de jeu long et étroit, constamment baigné d'un éclairage vif, horloge au balancier fantaisiste, nous invitant de son carillon capricieux à suspendre le temps et à savourer chaque minute volée à la frénésie. La jeune compagnie réunit cette année 8 artistes, à la fois auteurs et interprètes pour la plupart, qui font résonner les voûtes de la Maison Chevalier, des échos de la ville. 5 contes inédits qu'encadrent en ouverture et en clôture du spectacle une très belle légende amérindienne, nous entraînant dans Limoilou, Saint-Sauveur, Montcalm, Saint-Roch, Saint-Jean-Baptiste et au fil de récits aux sujets divers et aux tonalités variées. On y rencontre, en plus des animaux de la légende, un mythomane repentant, un Père Noël délinquant, un homme qui ne sait pas rêver, une cuisinière et le secret de sa tourtière, une jeune femme fascinée par le feu et les incendies. Autant de personnages à l'apparence banale et au destin particulier qui nous invitent à partager les préoccupations et parfois leurs déboires, mais surtout leurs quêtes. Les contes apparaissent forcément un peu disparates, c'est le propre de ce genre de soirée, et d'intérêt inégal. Quelques précisions ici et là éclaireraient certains récits. Un fil conducteur plus clair, comme ce fut le cas l'an dernier, apporterait à l'ensemble une cohésion qui lui donnerait plus de force. Chaque tableau a cependant ses qualités. L'un frappe par sa richesse thématique, un second par la solidité de l'écriture, d'autres enfin par l'humour irrésistible, par l'énergie ou la précision du jeu. L'ensemble séduit également par la complicité que les comédiens créent avec les spectateurs et par l'intensité de la parole et de la présence qui captive. Cette promenade, à travers la ville laisse la tête pleine d'images, des visages et de confidences et réjouit le cœur. Spectacle sans prétention, les contes à passer le temps prennent des allures de fête et offrent un précieux cadeau, une joyeuse parenthèse où vibre le plaisir de raconter et de se faire raconter des histoires.
Alors, je pars vous faire visiter la Grèce.
Oui.
C'est dans le journal Métro du vendredi 12 décembre, un texte de Martin Gignac. Visiter la Grèce ici. Un voyage en Grèce pour oublier les caprices de Dame Nature et découvrir les trésors du pays? Plus besoin. Zeus, Homère et Platon s'invitent au musée Pointe-à-Calière avec l'exposition Les Grecs d'Amaganon à Alexandre le Grand. Jamais un tel corpus d'objets faisant partie du patrimoine de l'humanité n'avait voyagé jusqu'en Amérique, expliquait en conférence de presse Francine Lièvre, la directrice générale de Pointe-à-Calière. Grâce à la collaboration de différents musées grecs, canadiens et américains, il s'est désormais possible de voir plus de 500 artefacts de notre côté de l'Atlantique. Couvrant plus de 500 ans d'histoire et de culture grecque, l'exposition nous amène au 7e millénaire avant notre ère, remontant peu à peu le fil du temps de façon chronologique. Des répliques du passé font office de mémoire, de transmission, le mythe rencontre l'histoire ne faisant qu'un avec elle. L'attention est plutôt portée sur Agamemnon, le roi de Mycène, qui a joué un rôle fédérateur. On peut d'ailleurs admirer un de ses masques. C'est une primeur mondiale, explique durant un tour guidé Jacques Perrault, directeur du département d'histoire de l'Université de Montréal. C'est la première fois que les Grecs laissent ce masque sortir de la Grèce. Les trouvailles sont nombreuses au sein de ce parcours initiatique qui se déroule dans les pièces presque labyrinthiques où le Minotaure risque de surgir à chaque tournant. Des trésors liés aux classiques que sont l'Iliade et l'Odyssée côtoient des bustes de grands philosophes. Des représentations pacifiques de la démocratie et des Jeux olympiques laissent la place aux exploits guerriers et matériels de Philippe II de Macédoine et de son fils Alexandre le Grand. Afin d'accompagner cette faste visite, il y a des publications spécialisées, des conférences thématiques et même une application mobile. L'Olympe existe bel et bien. Donc, les Grecs d'Agamemnon à Alexandre le Grand à Pointe-à-Calière jusqu'au 26 avril.
Me
Alors Jennifer, je crois que tu voulais faire des précisions.
Oui, je voulais préciser pour le conte à passer le temps, la pièce de théâtre dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est le 20 et 21 décembre à 20h et le 22 décembre à 15h à la Maison Chevalier.
Voilà. Merci. Casse-Noisette, année après année, le succès de ce spectacle familial présenté au Grand Ballet canadien de Montréal ne dément pas. La veille de Noël, la petite Clara reçoit un casse-noisette de la part de son parrain. Durant la nuit, celui-ci se transforme en prince charmant pour la défendre contre la menace des souris géantes, puis l'entraîne au pays des neiges et au royaume des friandises où elle rencontrera la fée draguée. Une aventure féerique à l'affiche jusqu'au 30 décembre à voir ou à revoir. Donc, c'est présenté le 19 décembre à 19h30, le 20 décembre à 14h, 19h30, le 21 décembre à 14h à la salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts. Est-ce que tu as... Oui, j'ai le temps. Si vous voulez voir l'Orchestre métropolitain et le jeune violoncelliste prodige... Stéphane Thériault, dirigé par l'orchestre Kesho Watanabe, il propose un programme comprenant la symphonie numéro 1, Rêve d'hiver de Tchaïkovski. C'est présenté le 19 décembre à 19h30 à la Maison symphonique de la Place des Arts. On se quitte le temps d'une courte pause et on revient avec encore plus de culture.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Et on va tout de suite démarrer cette deuxième partie d'émission. Alors, je vais vous demander, les garçons, quels ont été vos coups de cœur cinéma de cette année?
En ce qui me concerne, j'ai vu le film Birdman au cinéma. Okay. Et franchement, ça vaut la peine de se déplacer en salle pour voir ce spectacle-là, vraiment. Je vous en dis pas plus, allez le voir.
De mon côté, ça a été Boyhood de Richard Linklater. Je dois dire que ça a été une œuvre magistrale à voir sur grand écran. Tourné sur plusieurs années avec les mêmes comédiens. Alors, vraiment, j'y promets peut-être même un Golden Globes ou un Oscar.
Wow, on verra ça. OK. Eh bien, écoutez, en cinéma québécois, les réalisations exemplaires de Xavier Dolan ont alimenté la discussion toute l'année et continuent de monopoliser l'attention des médias. Ce fut aussi l'année où Hollywood a pris une coloration toute québécoise. Philippe Couture nous propose une rétrospective dans Le Voir du 18 décembre. Y a-t-il eu une seule semaine en 2014 sans que le nom de Xavier Dolan brille à la une des journaux? On a d'abord applaudi Tom à la ferme, sorti en salle en mars 2014, puis a commencé le périple Momie, longue ascension du brillant film que l'on espère voir triompher aux Oscars dans la catégorie du meilleur film étranger, et peut-être aussi dans d'autres catégories, comme le souhaite son distributeur américain qui a discrètement mis le film à l'affiche dans une salle de Los Angeles la semaine dernière, le rendant ainsi apte à concourir. Après l'ovation cannoise et l'enthousiasme critique au Québec comme en France, le film a aussi écorché les oreilles sensibles de quelques chroniqueurs conservateurs allergiques à sa langue prétendument vulgaire. Le statut d'enfant prodige de Xavier Dolan s'est ainsi confirmé et s'est accompagné d'un buzz médiatique sans précédent en Europe francophone. L'aventure va se poursuivre aux États-Unis. Le premier film américain de Dolan est à l'étape de la pré-production, mais attire déjà l'attention en raison de son casting béton, dévoilé par bride depuis la fin de l'été. Dire qu'il y a quelques mois à peine, Dolan annonçait qu'il se retirait du cinéma pour quelques années pour retourner sur les bancs d'école, meilleure chance la prochaine fois pour Xavier. Hollywood, justement, a pris cette année une teinte québécoise, alors que sont sortis sur les écrans coup sur coup les films américains du réalisateur québécois chevronné et singulier. Ennemi de Denis Villeneuve est arrivé en salle quelques semaines après Prisoners, thriller qui a permis aux cinéphiles américains de découvrir le réalisateur québécois et d'apprécier sa nouvelle complicité avec l'acteur Jack Gulligan, tout à fait brillant dans les deux longs métrages. Plus tard ont été révélés The Good Lie de Philippe Falardeau et Wild de Jean-Marc Vallée, tous deux mettant en vedette Reese Witherspoon en lui offrant des rôles propices.
Reese Witherspoon.
Pour mon accent.
Ah non, elle n'a pas un nom facile.
Mais elle est talentueuse.
Oui, avec un nom, voilà, Whispered Spoon, en lui offrant des rôles propices à modifier un petit peu son image trop propre. Plus conventionnels, davantage fidèles aux mécanismes scénaristiques hollywoodiens, ceux-ci sont toutefois de bonne tenue et vont assurer à ces deux réalisateurs une place de choix chez les imposants voisins américains. C'est déjà le cas de Jean-Marc Vallée, dont le précédent film Dallas Buyers Club a été un véritable triomphe en 2013. On découvrira aussi dans l'année qui vient Bouchoir de François Girard. Pendant ce temps, Ken Scott tourne Business Trip avec Vince Vaughn et Dave Franco, une comédie sur un voyage d'affaires qui tourne mal. Hollywood n'a certainement jamais été aussi québécois. Loin des polémiques sur les films lamentaires qui ont peuplé l'année 2013, l'année 2014 a tout de même attiré son lot de constats d'échec au box-office Québec.
Pas eu la suggestion coup de cœur.
C'est vrai,
de Jennifer.
Je me suis lancée dans mon article directement. Et alors pour moi, c'était Sous les jupes des filles. C'est un film de Audrey Dana, voilà, avec 8 actrices, notamment françaises. Et c'est une comédie vraiment très, très drôle qui permet de connaître un petit peu plus la gente féminine.
Voilà, ah bon,
à découvrir.
Mais du côté français comique, j'ai bien aimé Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu.
Oui,
ah,
oui.
C'était savoureux.
C'était très drôle aussi, c'est vrai.
Et, mais là, je vais vous parler d'un film. C'est un portrait, c'est le temps des fêtes, on aime ça, les histoires de princesses. Eh bien, une des grandes princesses, c'est Grace Kelly. Alors, dans le journal 24 heures du vendredi 12 décembre, Isabelle Hontebéry nous parle de Grace Kelly, Nicole Kidman au palais. Présentée hors compétition en ouverture du plus récent Festival de Cannes, mais vilipendée par la critique, Grace de Monaco présente un portrait de la princesse mise en scène par Olivier Dahan avec Nicole Kidman dans le rôle principal. Gros plan. C'est sur la croisette, lors de la présentation du film, que Nicole Kidman a indiqué qu'elle avait été soufflée par le scénario de Grace de Monaco. Je me suis dit que c'était un défi de taille. J'ai eu la chair de poule parce que c'était une occasion formidable pour moi. Tout au long de ma carrière, j'ai recherché des rôles qui me mettent sur la corde raide, a-t-elle précisé au parterre du journaliste présenté ce jour-là. J'ai déjà incarné des personnages qui ont existé avant, Grace Kelly, et j'ai eu des approches différentes. Pour ce rôle, il existe énormément d'archives vidéo qui m'ont permis de la voir, d'entendre sa voix. J'ai aussi lu beaucoup d'ouvrages. Si ma mémoire est bonne, j'ai eu 5 mois pour me préparer. J'ai donc pu me glisser doucement dans sa peau en la regardant, en l'écoutant et en absorbant le tout. Mais dans le même temps, quand nous en avons parlé avec Olivier Dahan, le réalisateur, c'était important que je ne me sente pas prisonnière du fait de devoir l'imiter. Grace de Monaco est moins une chronique historique qu'un portrait personnel de l'ancienne vedette d'Hollywood devenue princesse de la principauté. L'intrigue se déroule au début des années 60, alors que le président français Charles de Gaulle, interprété par André Panvan, veut tenter de rattacher Le Rocher à la France, aux grandes dames du prince régné, interprété par Tim Roth. On y voit aussi la difficulté d'adaptation de Grace de Monaco à la vie du palais, aux intrigues ainsi que son hésitation à rejouer sous la direction d'Alfred Hitchcock, interprété par Roger Ashton Griffiths, dans Le Pas de printemps pour Marnie, une idée qu'elle finira par rejeter. Grace de Monaco comprend plusieurs couches dans mon esprit. Il ne s'agit pas du tout d'un film biographique, parce que je parle d'une actrice, le long métrage touche au cinéma. Pour moi, il est lié à la politique, la femme, le cinéma. Je ne veux pas réduire Grace de Monaco à un seul aspect, car nous avons essayé d'en faire un film complexe mais accessible, a précisé Olivier Dahan. Malgré le souci de présenter un portrait réaliste d'une femme parfois tourmentée qui doit faire des choix à la famille Grimaldi a refusé d'assister à la projection cannoise et s'est totalement désolidarisée du long métrage. « Je suis triste, bien évidemment », a confié Nicole Kidman. « Je crois que le film ne contient aucune méchanceté à l'endroit de la famille princière. Ce n'est pas un long métrage biographique, il s'agit d'une fiction. Oui, l'essence de la vérité est là, mais on a pris des libertés artistiques. Ma prestation est faite avec amour. » Alors, ce sentiment d'amour, si vous voulez voir l'interprétation de Nicole Kidman, le film sort en salle aujourd'hui.
principiante che non aveva mai amato, un po' distante, timido e titubante, ha disegnato mobili sui muri per avere più respiro e ricordi duraturi. Il principiante, simpatico e galante uomo, tento all'istante un dialogo inebriante, ha disegnato lettere sui muri per avere più parole, ricordi sicuri. La donna in bianco copre il sorriso coi capelli e mostra un fianco, spiega tutti i suoi anelli a voce stanca, un filo che va via, voce senza malizia e malinconia. La donna in bianco copre il sorriso con la mano e muove attenta la sua pelle sul divano, recita fiera il meglio di sé. Lei esce, compra e ognuno per sé. Lei esce, compra e dunque esiste, ma più che altro lei non resiste. Sogni proposti per l'avventura, tutti la stessa caricatura. Lei esce, compra e dunque esiste, ma più che altro lei non resiste. Sogni per l'avventura, tutti la stessa caricatura.
Le rythme dans vos oreilles, c'était Brana Bando qui jouait Il Principiante. Jennifer, tu nous amènes au Centre des sciences.
Oui, dans la réserve naturelle Wolong en Chine, des amoureux des animaux travaillent fort pour sauver les pandas de l'extinction. Et dès samedi à Montréal, le Centre des sciences propose un film consacré à ces bêtes irrésistibles qu'aux humains qui les aident à retourner à l'état sauvage. Donc c'est Natalia Wizoka qui nous en parle dans le métro du 18 décembre. Hier midi, avant la projection en première montréalaise de Panda 3D, le présentateur a voulu savoir « Qui ici aime les pandas ?» Toutes les mains des enfants présents dans la salle se sont levées instantanément. Ce mammifère, pas de doute que ce mammifère câlin noir et blanc est une super vedette. Toutefois, si cette espèce adorée fait l'unanimité, sa survie n'en est pas moins menacée. Moins de 1600 spécimens foulent présentement le sol de la planète. Et la main de l'homme, qui met souvent le pied là où il ne faut pas, fragilise encore plus son habitat. Dans le moyen métrage Panda 3D « Retour à la nature » distribué par National Geographic, Nicolas Braun aborde ce problème criant sous un angle toutefois rempli d'espoir. En 40 minutes, le réalisateur nous transporte dans la réserve naturelle chinoise de Wolong, où des spécialistes se consacrent à l'étude et à la sauvegarde de ce grand animal qu'on dit affectueux et craintif. Le film commence alors que ladite réserve s'apprête à passer à une autre étape de son histoire. Les 300 places pour Panda disponibles en son sein sont occupées et les responsables doivent désormais retourner des pensionnaires à l'état sauvage. Au fil de l'épopée sur grand écran, on assiste notamment à l'insémination artificielle d'une femelle, à son échographie et à l'explosion de joie et aux applaudissements nourris des observateurs qui accompagnent la naissance du bébé qui sera nommé Toto ainsi que de son jumeau. On suivra ce même Toto, le héros de l'aventure, dans son apprentissage et dans sa préparation à affronter la vie à l'extérieur du lieu protégé et surveillé où il a grandi. La narration douce assurée par Jolie Richardson dans la version originale anglaise pour les anciens fans de Nip Tuck, l'actrice qui jouait Julia McNamara coule et berce le spectateur. On y fait souvent des liens entre l'animal et l'humain, nous précisant par exemple que tout comme nous, les pandas peuvent être exigeants au sujet de leurs partenaires, ou encore que tout comme nous, les pandas sont très différents. Certains sont timides, d'autres aventuriers. Néanmoins, lorsque Toto est relâché dans la nature, on sent que l'événement prend une dimension plus politique. Après avoir souligné que l'animal est en voie de devenir le panda le plus célèbre de la Chine, la narratrice nous annonce que tous les dignitaires du pays sont présents et les images solennelles de ces derniers accompagnent ces dires. Notons aussi que malgré le message positif qu'envoie l'œuvre en 3D, celle-ci ne baigne guère dans le rose bonbon et le déni. On nous rappelle qu'il ne reste presque plus de pandas dans le monde et que même ceux qui passent par la réserve naturelle où ils apprennent à survivre ne sont pas blindés contre les dangers. Le récit revient aussi sur le tremblement de terre de 2008 qui a dévasté le territoire et forcé les déplacements de plusieurs bêtes. L'histoire de Toto, toutefois, se termine bien et le film nous donne espoir que ce soit le cas pour... on espère en tout cas que ce soit le cas pour tous les pandas. Donc je rappelle que c'est au Centre des sciences et que c'est à partir de demain.
Maintenant, on est rendu dans le dernier segment de l'émission. Quelles sont vos sorties que vous avez préférées cette année, en 2014? Jennifer?
Moi, j'ai beaucoup aimé l'exposition qui est au Musée des Beaux-Arts de Van Gogh à Kandinsky. Voilà, donc j'invite ceux qui n'ont pas pu y aller parce que c'est jusqu'à mi-janvier, donc on peut encore aller découvrir cette somptueuse exposition qui est vraiment géniale.
De mon côté, c'est l'exposition Scandale au Centre d'histoire de Montréal. On découvre que nos grands-parents étaient peut-être un peu plus dévergondés qu'on peut le croire.
Ça sera sans doute des sujets de discussion autour de la table le 24 décembre.
Et toi, Charles?
Moi, cet été, je suis allé faire du canot camping pour la première fois de ma vie au parc régional du Poisson Blanc. Et c'est un très bon site pour s'initier à la chose. C'est un lac plat et les sites de camping sont merveilleux. On a vraiment une belle tranquillité. Alors, si vous voulez y aller, c'est près du, c'est dans l'Outaouais, près du parc régional de Papineau-Labelle. À Drummondville, ce sera le dernier article sans doute qui traite des villages de Père Noël. À Drummondville, donc, une foule d'activités s'y déroule. C'est Yannick Poisson dans la tribune qui nous en parle. Noël comme dans le temps à Drummondville. C'est paru le 15 décembre. Nostalgique et âme à la recherche intensive de l'esprit de Noël trouveront chaussures à leurs pieds du 19 au 31 décembre alors que le village québécois d'antan de Drummondville propose son village illuminé, un rendez-vous où chorale, rigodon et comfort food sont au rendez-vous. L'hôte de la maison roi sortira des cuillères de bois et violon afin d'entonner de grands classiques hivernaux. Pas facile qu'on peut... C'est pas aussi facile qu'on le pense de tenir le rythme à la cuillère. Alors que ses invités quitteront la résidence le sourire aux lèvres, le gentil grand-père ira d'un précieux conseil. Ne jouez pas aux cartes pendant le temps de Noël. C'est plate, chantez et dansez plutôt. Si les plus jeunes ne sont pas convaincus de cette première escale, ils tomberont nécessairement sous le charme lors de leur visite à l'église, où les lutins présenteront une courte pièce de théâtre de 20 minutes. Le turbulent lutin Vlimeux, responsable de la formation à l'Académie des lutins, raconte aux enfants les mauvais tours qu'il a enseignés à ses protégés afin que ceux ainsi que ceux qui y ont réalisé de leur propre chef. Si la courte animation s'adresse principalement aux enfants, elle arrachera également un sourire aux parents, surtout ceux qui n'ont pas perdu leur cœur de jeunesse. Les lutins font de mauvais tours et les parents trouvent ça drôle. Ça doit être ça la magie de Noël, lance le lutin. Rigodon et ragoût de pâte de cochon. Au menu, une succession de mets qui plairont à coup sûr aux plus traditionnels. À la soupe au pois servie en entrée, on ajoute les crotons, la dinde, le ragoût, ainsi que le pâté à la viande, le tout accompagné de patates pilées et de ketchup maison. Pour ceux qui ont encore de l'appétit, un morceau de bûche de Noël fera office de dessert. Afin de digérer les calories ingérées à la tonne, les visiteurs pourront jouer au hockey avec des bâtons à palette droite, semblables à ceux utilisés à l'époque, ou faire une randonnée où ils risquent de croiser une petite chorale en tonnant des cantiques autour d'un feu. La justesse des voix combinées a de quoi réchauffer les cœurs et donner quelques frissons. Le village illuminé remet tout indiqué au spleen associé au raccourcissement des journées. C'est à consommer idéalement par temps froid et neigeux. Alors, cette activité, je le rappelle, est jusqu'au 31 décembre et c'est à Drummondville, au centre-ville.
Hurry down the chimney tonight.
On vient d'entendre Émilie Simon et Santa Baby.
Dans le journal du mercredi 17 décembre de 24 heures, Sylvie Ruel nous parle de 5 activités à faire pour les vacances de Noël, ou les vacances des fêtes à Montréal. Tout d'abord, elle propose d'aller patiner dans le vieux Montréal, dans le vieux port, près du bassin Bon Secours. On a une vue exceptionnelle, mais aussi certaines journées, donc certaines dates, le 20-27 décembre et le 3 janvier, des feux d'artifice qui peuvent accompagner votre tour de piste en patin. Ah, il y a prendre l'air aussi sur le Mont-Royal, hein, quoi de mieux que d'aller sillonner les 22 km de piste de ski de fond ou d'aller faire de la raquette ou tout simplement une randonnée. Il y a aussi les activités familiales, l'insectarium, le biodôme, le planétarium et... Quoi de mieux aussi que d'amener son enfant voir un spectacle de cirque. Flip Fabrique présente Attrape-moi à la Tohu jusqu'au 3 janvier. Et il y a le village d'hiver du Stade olympique, donc près de Pierre de Coubertin et Pineuf, où vous pouvez aussi faire patinoire réfrigérée, aussi plein d'activités, un chalet chauffé. Alors, c'est des activités tout près à Montréal.
Il y a la Mélodie du bonheur encore jusqu'au 4 janvier à la salle Pierre-Mercure. C'est une comédie musicale mise en scène par Denise Filiatro qui est de retour à Montréal et on se fait un plaisir de retourner entendre les joies quotidiennes d'Edelweiss et autres classiques que chante la pétillante distribution avec en tête les imposantes voix de baryton de Étienne Dupuis et l'attachante Maria de Catherine B. Lavoie. Alors c'est jusqu'au 4 janvier à la salle Pierre-Mercure.
La troupe suisse Mumenschanz, qui parcourt le monde, est de retour à Montréal pour présenter le spectacle théâtral Les musiciens du silence. Cette présentation, qui se dit intemporelle, envoûtante et enchanteresse, privilégie le silence et pour ce faire, les artistes de la scène n'utilisent que divers artefacts pour raconter une histoire. Ainsi, des masques occultant visage et corps, des poupées qui se diluent et des figures aux formes bizarres sont en mouvement dans un fond noir. Mélangeant comédie, danse et théâtre, la production Les musiciens du silence saura plaire aux petits et grands. Ça débute ce soir à 20h et demain à 15h au Théâtre Outremont.
Il y a le cabaret politique et bouffonnerie. Salut 2014, cette 8e édition de ce cabaret humoristique et politique est présentée par le Théâtre Tétard. Utilise autant le chant, les imitations, les sketchs que la danse pour faire une satire de l'année 2014. Alors, c'est présenté jusqu'au 30 décembre au Petit Medley.
Deux amoureux vraiment amoureux se rendent dans un chalet pour leur lune de miel, mais après les délices du début, le climat change. La jeune mariée devient irritable, se plaint des crampes à l'estomac et oublie de passer ses toasts dans du lait avant de faire son pain doré. Que se passe-t-il? Avec ce premier film, l'Américaine Lane Janiak ne bouscule pas les cordes de l'horreur. Reste qu'elle ait créé adroitement des ambiances inquiétantes portées par deux acteurs solides. Alors c'est à voir au cinéma, ça s'appelle Honeymoon. Question de changer le ton un peu dans le temps des fêtes, peut-être.
L'interprète-compositeur Louis-Jean Cormier se joint à l'Orchestre symphonique de Québec pour afficher son spectacle « Des fleurs dans les canons » et visiteront les chansons de l'album « Le 13e étage ». Reconnu pour sa plume poétique, fragile et émotive, Louis-Jean Cormier accorde ses textes aux instruments de musiciens de la symphonie et ce mariage entre les rythmes pop et classiques donne un concert d'exception. À noter que ce récit qui unit l'ex-juge de l'émission La Voix et l'orchestre symphonique n'aura lieu qu'un soir seulement à Montréal et c'est demain soir à 20h à la Maison Symphonique.
C'est là-dessus que se termine notre émission. Merci d'avoir été à l'écoute. On vous souhaite de joyeuses fêtes. C'était Miguel Doucet, Jennifer Vignery, je m'appelle Charles Roy au micro, Rémi Hermoso à la régie. On revient bientôt en janvier.
Après les fêtes en janvier.
Oui. Donc d'ici là, portez-vous bien, joyeuses fêtes.
Joyeuses fêtes.
Profitez-en.